Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et là, on a un gros morceau puisqu'on est devant Love Addict de Frank Belloc avec Kev Adams. T'as vu, je le fais bien avec la voix là. Mélanie Bernier et Marc Lavoine. Autour de la table, j'ai mes Love Addict préférés. Amandine Schmitt, bonjour.
Salut.
Et Vincent Manilève.
Bonjour.
Je m'appelle Gabriel et j'ai un problème. Je ne peux pas résister à une femme. C'est plus fort que moi. Il se passe un phénomène physique. Je suis une espèce d'amoureux permanent.
Non.
Il faut que je me fasse soigner.
Un client arrive avec une addiction, bam, on l'aide.
Si vous ne pouvez pas résister aux femmes, comment comptez-vous gérer votre relation avec moi?
Je vais pas vous le cacher, les jolies brunes au regard pétillant et...
Enchaîner,
ouais, aussi, pourquoi pas.
Non, enchaîner, poursuivez. Je dois vous observer 24 heures sur 24.
Ah non, mais ça, c'est pas possible. Je vis avec mon tonton Joe, sa femme l'a quitté il y a 2 ans.
Et... Mais c'est pas négociable.
C'est hors de question, Gabriel. Aucune femme ne rentre ici, pas dans le temple.
Bah, allez-y, entrez, je vais vous montrer votre chambre. Enfin, ma chambre.
Et vous?
Bah, je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Ok, on va complètement se gêner, je vais dormir sur le canapé.
On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh la petite pute. Oui, Gabriel, il sort où le soir?
Je ne parlerai jamais.
Ah oui?
Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi?
Des giflons.
Des giflons, plein front.
Je vais me tourner vers le spécialiste des giflons à cette table, Vincent Manilève.
Ah, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment traître de dire ça.
Maintenant, tout le monde sait.
Tu es démasqué. Non, je vais le faire. Donc, Kev Adams, c'est un beau jeune homme qui travaille dans le monde du travail. Et puis, il est addict sexuel et toutes les femmes tombent devant lui.
Il est addict à l'amour. Enfin, on va y revenir.
Ouais, bien sûr. Il est addict à l'amour. Et toutes les femmes tombent devant lui et ça lui pose un vrai problème dans la vie à tel point que il va faire intervenir une experte en anti-amour, une débandeuse professionnelle, qui est jouée par Mélanie Bernier, qui d'habitude joue des rôles très très sympathiques. Et là, c'est un peu son tchao pantin, en fait, j'ai envie de dire. Donc Love Addict, voilà, je t'ai résumé. Ah oui, il y a un plot important de ce film, c'est que il vit avec Marc Lavoine, donc son tonton. Qui lui est vraiment un vacciné des femmes. Voilà. Amandine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Je sais pas trop quoi en dire.
Est-ce que
je suis sensible à Kev? Ouais. Pas franchement, et c'est un peu le problème de ce film. En fait, on nous dit donc que toutes les femmes tombent devant Kev Adams, et ça, c'est très difficile à croire parce que le film ne nous donne rien pour le croire.
Si ce n'est la preuve factuelle, c'est qu'elles tombent toutes devant lui.
Voilà, c'est ça. Donc littéralement, elles tombent. En une matinée, il se fait 3 meufs, c'est comme ça que commence le film. Le truc, c'est que Kev Adams, il n'est pas du tout vilain, mais ce n'est pas non plus un dieu grec. Donc on se demande bien pourquoi on devrait tomber sous son charme. Et le film, en plus, ne lui donne pas une grande épaisseur. Il n'est pas spécialement charismatique, il n'est pas sympa, il n'est pas intelligent.
Il n'a même pas de truc de rédemption.
Non, mais il n'y a rien qui fait qu'on pourrait comprendre que les femmes tombent. Alors on a juste cette espèce de scène à la pseudo Mad Men où il pitch le lancement d'un produit. Alors c'est vraiment le Don Draper du pauvre, quoi, parce que... Il n'y a pas grand chose à en tirer, on ne comprend même pas de quel produit il parle en fait.
Vous allez cartonner avec votre
et
produit et tout le monde applaudit.
Voilà, cut. et donc j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que Kev Adams s'est dit que sa célébrité pouvait suffire à nous spectateurs à se dire « Ah bah oui, c'est pour ça que tout le monde veut se le faire, parce qu'en fait il est hyper célèbre ». Et du coup, ça ne fonctionne pas du tout, quoi.
C'est un peu le reste de Soda, j'ai envie de dire. Ouais.
Mais du coup, ça fait un peu... moi, je trouve que c'est un petit peu de l'auto-glorification où tout le monde doit se dire « Ah bah ouais, il est tellement cool, Kev Adams, bien sûr que j'y vais direct ».
Est-ce que toi, tu y vas direct, Vincent?
Moi, j'y vais pas direct, mais comme je l'ai vu à l'avant-première parisienne quelques jours avant la sortie, j'étais entouré de personnes, de jeunes femmes qui y allaient, mais direct, en demandant de la permission, en sautant par-dessus les gardes du corps, etc. Elles y allaient.
Vraiment, des filles qui pleurent et
oui,
tout.
Oui, j'ai vu une jeune fille qui a pleuré parce qu'elle prenait une photo avec lui juste après. Donc,
les mêmes que tu as vues à Amsterdam.
Voilà, exactement. C'est un peu c'est le même public. C'est, et pour le coup, des jeunes femmes qui sont plus âgées, qui ont des fois 26, 27 ans. J'ai pu discuter avec certaines d'entre elles il y a quelques temps. Mais voilà. Donc simplement pour dire qu'effectivement, en fait, moi, je vois ce film-là comme un film où effectivement, comme tu disais, Amandine, c'est Kev Adams. Et il est entouré de femmes qui sont toutes ses fans, en fait, fans de Kev Adams. Et effectivement, là, tout le monde veut le coucher avec lui, etc. Enfin, ça m'a énormément dérangé, parce qu'effectivement, Kev Adams, je le trouve pas crédible là-dedans, dans son costume.
Et puis il est jeune, il est peut-être trop jeune pour ce rôle-là.
Voilà, il est peut-être trop jeune, c'est son premier rôle.
Il a 26 piges.
D'adulte complet, entre guillemets, hein, même s'il a déjà joué des étudiants, etc. Et en fait, moi, ça m'a énormément dérangé dans le sens où... tout est fait pour protéger son image, pour protéger le fait que c'est un mec bien quand même. Il est pas malade. Il parle d'une malédiction à un moment. Il faut le soigner, etc. Tous les hommes qui se comportent comme lui, les personnages secondaires, eux, sont vus comme des pervers qui, comme il le dit lui à un moment, vont les mener en prison. Donc lui, il peut faire même un peu une forme de voilà, une espèce de harcèlement au travail, etc. Il a taquiné toutes ses collègues, etc. Même j'ai vu une pseudo main aux fesses à un moment, mais je suis pas certain, une petite main dans le dos, une petite tape dans le dos un peu gênante, etc. Et quand il est viré de son travail, bah, c'est pas parce que il est déplacé avec ses collègues, c'est parce que il a couché avec la femme du patron, les filles du patron et la secrétaire du patron. C'est pas du tout, enfin voilà. Donc l'image de Kev Adams, c'est beaucoup trop lisse et le pitch ne colle pas du tout et il faut absolument le protéger quoi. Et moi ça m'a vraiment dérangé tout le long.
En plus il y a vraiment le personnage de Marc Lavoine qui est son tonton qui souffre de la même maladie, du coup ça fait vraiment malédiction familiale qui est innée quoi et qui peut pas changer.
Pour moi c'est un préquel au cœur des hommes. En fait, c'est pour moi, c'est complètement ça. C'est Marc Lavoine.
C'est son perso d'avant le quart des hommes.
Bah, c'est le même gars qui couchait, enfin, un mec amoureux des femmes, etc. Enfin, c'était l'image un peu romantique du donjon, etc. Et pour moi, c'est genre 10 ans ou 5 ans après, et on le retrouve avec son neveu parce que lui, il a changé, etc. Mais c'est un peu la même mentalité, quoi.
Là, on s'oriente vers un cœur des hommes junior.
Ouais, tu crois que il faut rediscuter qu'un peu du Kev Adams quoi, parce que c'est quelle carrière se donner, parce que j'ai l'impression de ce que vous dites hein, j'ai l'impression que il joue sur le fait que tout le monde se souvient de lui parce que c'était Soda, qui je précise une série que j'ai jamais regardée, donc tu vois quand on me dit Kev Adams tu vois ça me fait absolument rien, je le vois que pour ses films et donc du coup je pense à Prof. Je pense aux nouvelles aventures d'Aladin. Donc du coup, j'ai pas du tout le phénomène. Et quand on me le vend comme un méga turbo beau gosse qui littéralement les filles tombent pour lui, je n'y crois absolument pas en fait. Je vois qu'il est, ça joue trop sur son charisme et pas assez sur ses capacités d'acteur en fait.
Oui, voilà. Enfin, il est pas vraiment bon dedans, quoi. Il est pas convaincant. Enfin, je trouve vraiment en décalage complet. Là, j'ai vu passer un article où il racontait qu'il était très fier de son corps qu'il avait sculpté pour ce film-là. Il y a plusieurs plans sur ce torse nu. Effectivement, voilà, on sait qui ça vise, on sait pour qui c'est fait. Voilà. Mais tu parlais de Soda. C'était l'ado, avec blague un peu pipi caca et tout. Là, il essaye pour la première fois de faire un rôle vraiment complètement adulte. Mais il y a cette image qui lui colle encore à la peau parce que il a fait tous ses films avant, parce qu'il a fait Soda et parce qu'il y a encore ce public qui l'enferme, je pense. Je pense que c'est ce qu'il regrette un peu. Je pense qu'il regrette encore d'être un peu rattaché à cette image d'ado attardé.
Mais tu penses pas qu'il essaye de suivre l'âge de son public et c'est pour ça que là, c'est son premier film d'adulte parce que son public grandit aussi finalement.
Justement, dans la salle, j'étais étonné de voir vraiment des jeunes filles, je sais pas, qui devaient avoir 14, 15 ans, mais d'autres qui avaient 20, 25, etc. Donc, c'est assez fluctuant et c'est étrange. Il y a des mamans aussi qui étaient complètement fans de lui parce que leur fille était fan aussi. Donc, c'est très perturbant. Je pense qu'il a du mal à trouver la position, la juste position. Moi, j'aimerais juste qu'il fasse un rôle où il joue un connard complet, un connard assumé, pas un connard protégé par l'histoire, etc. Et là, on verra, même s'il a une rédemption à la fin, j'en sais rien. Là, il y aura une rupture. Pour moi, il n'y a pas de rupture.
Est-ce que tu as vu son Ciao Pantin à lui? Qui est ami public.
Oui, enfin
c'est genre il est tellement sympa qu'en plus il est
je suais des bons sentiments à tout le film là, j'en pouvais plus quoi.
Ah, c'est assez compliqué. On va s'écouter des petites vannes.
J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire.
On a rencontré ton assistante, elle a l'air bonne. Pardon ? compétente.
Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas. Hein.
Je l'aime.
Ça va pas, j'ai déçu un fond.
Enlevez votre chemise.
Ok. C'est quoi ça?
À chaque fois que vous aurez l'impulsion de séduire une femme, je ne veux que du professionnel.
Juste pour être sûr, vous allez pas enlever votre t-shirt. C'est dommage qu'on ait pas un peu plus de temps. Je sais pas si vous avez quelque chose de prévu. Tu te rends compte que depuis qu'elle s'occupe de moi, j'ai pas séduit une seule fille?
C'est un très bon test. Tant que vous ne saurez pas vous contrôler.
Mais je peux me contrôler.
Je sens que la blague des chocs électriques pour calmer les ardeurs, ça vous a pas fait rire?
Non.
Ouais, non, et puis moi, c'est symptomatique du personnage de Mélanie Bernier aussi. C'est,
ah ouais, je voulais.
Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, elle est complètement sous-écrite. Au début, elle a un petit ami.
Sous-écrite et surjouée.
Et surjouée.
Ouais.
Elle a un petit ami à un moment, personnage le plus inutile du monde.
Je
et elle le largue.
Même pas.
Elle le largue sans qu'on comprenne pourquoi. Elle le largue de nulle part parce qu'elle va aller dormir chez Kev Adams pour s'occuper de lui. Et ça, c'est n'importe quoi son métier. Donc, elle est pas.
Elle est minder.
Voilà, elle devient minder, elle était psychologue ou psychiatre, mais pas très douée.
Ah oui, il y a ce moment très gênant où on voit qu'elle exerce très mal son métier de psy.
Ouais, voilà.
C'est horrible.
Et moi, ce qui me dérange aussi, et là encore, c'est ce qu'il disait après l'avant-première à la fin, il disait que le réalisateur disait qu'elle apportait la touche féministe. C'était que le film est féministe en grande partie grâce à elle. Et après, quand même, ils ont dit après, elle apporte une touche de grâce ou je sais pas quoi, d'élégance. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je suis triste pour elle.
Moi, quand j'entends que ce film est féministe, j'ai envie d'avaler mon micro. Quoi. Ça va pas du tout. C'est pas parce que t'ajoutes une femme que le film devient automatiquement féministe. Et pour le coup, la pauvre Mélanie Bernier, elle a pas grand-chose. Elle est très antipathique tout le long. En fait, comme elle a le rôle de la personne qui doit remettre Kev Adams dans le droit chemin, elle arrête pas de l'engueuler tout le long. Donc, pour nous, elle est pas très. On s'attache pas vraiment à elle.
Bah,
quoi.
C'est la castratrice.
C'est la castratrice.
Et
c'est
on
ça.
Comprend pas qu'elle tombe amoureuse de lui, quoi.
Non,
ça ne marche
pas.
Ah ouais, t'as pas senti.
Ah non, moi je. D'accord, je vais t'en sourire après, j'ai compris que c'était du second degré, mais ok.
Non, on l'entend pas dans le podcast, mais oui, c'est vrai qu'il
y a. Ouais, d'accord, ouais.
Quand ils sont ensemble dans le vestiaire et qu'elle voit son torse, non?
Ah non, c'était génial.
En plus, pour une psy, pour quelqu'un qui, donc, une psy qui, quand même, devrait avoir de l'expérience et donc, une sensibilité humaine et une notion des rapports humains, c'est la psy que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu une psy montrer aussi facilement ses nichons et ses fesses, au cinéma. Ça m'a abasourdi. Genre, j'étais en train de me faire, mais est-ce que ce n'est pas réel, en fait?
C'est très gratuit, en plus, là, dans le film.
C'est très, très gratuit. Alors, évidemment, je comprends l'envie du réalisateur, quoi, mais filmiquement, ça fait que desservir le personnage.
Mais
quoi.
On t'a dit que c'était féministe.
Ah, pardon, excusez-moi, je savais pas.
Et puis, pendant l'avant-première, elle a presque pas dit un mot, c'était que Marc Lavoine, Kev Adams, c'est le réalisateur qui parlait. Enfin bref, saoulé.
Et Marc Lavoine, alors, qu'est-ce qui se passe
Marc Lavoine ne joue pas dans le même film. Clairement, je sais pas, il est dans son délire tout seul. Je sais même pas s'il a vraiment tourné avec les autres,
j'ai l'impression qu'il était sur fond vert et qu'il a été ajouté dans l'appart.
Il était dans les studios de Pinewood, il était...
Et un mot sur l'appart, parce que c'est l'appart le moins réaliste du monde. Donc c'est-à-dire que c'est un appart qui a une vue incroyable sur la Tour Eiffel. Mais Tonton Joe dort quand même sur le canapé, donc il y a potentiellement pas d'autre chambre. Et puis la voisine, il y a une voisine qui est une, je sais pas, d'étudiante ou jeune femme. Enfin, tu ne sais pas quel genre d'immeuble, d'appartement c'est.
Géographiquement, c'est très compliqué.
Géographiquement, ça situe genre au Trocadéro, mais quand je dis au Trocadéro, c'est genre dans le bâtiment,
c'est un appart qui a été rajouté à un penthouse
au palais Tokyo. Qui sont ces gens?
Je ne sais pas, ça me rappelle
quand on recevait Jonathan Cohen, on essayait d'établir combien coûte l'appartement où vit les gens, et en fait là on est clairement dans un cadre où l'argent n'a plus d'incidence, quoi. Il perd son taf, il a l'air de faire un job à 20 patates par mois et ils en ont rien à foutre, et j'ai du mal. On en parlait, il y a toujours besoin d'un moment où on se rattache au personnage, et déjà on s'implique pas dans les personnages, mais en plus on sent jamais d'amour venir, ces personnages m'indiffèrent.
Ouais, mais ça aurait été intéressant que Kev Adams, au final, quand il rentre chez lui, il est plus du tout beau gosse, genre, c'est-à-dire, je sais pas, qu'il ait un appart un peu pourri ou genre de choses, en gros ça aurait été une posture dans le monde public où il se tient, il est beau.
Là c'est du Francis Weber là que tu nous
mais ça m'aurait mille fois plus intéressé, j'aurais eu un minimum de sympathie pour lui, mais c'est pas le cas.
Mais comme l'appart, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas du tout clairs dans ce film. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi il devait aller signer son contrat chez la femme de son patron, alors qu'il a quand même l'air de travailler déjà dans cette start-up. Ouais. Donc je me dis, mais il travaille sans contrat, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprenais pas vraiment.
Quand il est start-up en ce moment.
Oui.
On n'a pas parlé de la start-up.
Et de son patron.
Et de son patron. Et de ses employés qui sont.
Voilà,
Alors je me tourne vers l'expert de YouTube, voilà. Qui des nichons qui donnent des coups, mais aussi qui donnent des claques, mais aussi de YouTube, Vincent.
J'espère que ma mère va pas écouter ça. Non, mais effectivement, donc on retrouve Bat et Gaël, donc un duo assez connu, et leur pote Jérôme Niel, qui sont des youtubeurs installés depuis quelques années déjà. Et là, ils viennent contrebalancer, ils viennent en fait juste servir la pâtée de la sympathie à Kev Adams. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être les pervers et protéger entièrement Kev Adams. C'est-à-dire lui, il se comporte bien vis-à-vis des femmes, et eux, ils ont juste envie de Ken, quoi. Et moi, ça me fait de la peine pour eux, parce qu'ils ont les trois, ils ont un vrai potentiel comique. Et pour l'instant, Gaël, je les ai vus dans Bad Buzz en train de faire un toucher rectal à un mec à un moment.
Putain, ça c'est un truc sur un CV. Toucher rectal dans Bad Buzz.
Baptiste, il a plus d'opportunités, etc. Et puis en plus, je sais qu'il a une vraie sensibilité, il veut faire autre chose que des comédies. Mais là, je trouve ça dommage. Et c'est encore un rôle pour youtubeur. Voilà.
Là aussi, c'est un autre film. C'est complètement un autre film. On ne sait pas dans quel registre ils sont. On comprend rien. On ne sait pas s'ils sont censés représenter des geeks puceaux, mais en même temps, il y a un truc hyper malsain.
C'est Victoria's Secret, en fait.
Oui, Victoria's Secret, mais dirigé par des puceaux, mais c'est très 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 chelou. Donc, si tu en plus
sans aucune femme dans toute la boîte.
Oui, ça aussi.
Parce qu'il faut pas tenter les hommes. Il y a un moment qu'Adam s'y dit, on est mieux entre hommes quand même, comme ça. Enfin, un peu, il fait comprendre sans tentation, quoi. Voilà.
C'est vraiment bien. C'est une bonne comédie. Bon, c'est bonne ambiance. Et comme on le dit d'habitude, il faut un peu tomber amoureux des personnages pour l'apprécier. C'est pas le cas.
Et puis en plus il y a le gros problème de la redite il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a une grosse redite de films américains, donc il y a des copies conformes de Pulp Fiction et de Grease qui tombent comme des cheveux sur la soupe. Et en plus j'ai l'impression qu'on nous dit regardez, on fait de la comédie à l'américaine, mais en fait c'est pas en copiant des scènes telles quelles que tu fais ça.
À quoi sert la scène de danse? Alors ça j'ai pas compris, à quoi sert la scène de danse dans un bar gay?
C'est Grease, c'est là qu'ils reprennent Grease.
Mais
on sait pas, et en plus.
C'est censé créer un moment où les deux personnages antagonistes jusque-là sont censés avoir une étincelle, une connexion, je pense, et un début de sympathie, voire de sentiment. Mais. Non, c'est.
Ça ne marche pas.
Nope.
On va passer à l'étape de la monétisation. Combien Vincent, combien tu te donnes à cette comédie? Combien tu mets pour emmener un petit dîner romantique?
On l'a pas mentionné, mais il y a Michael Madsen qui fait une espèce de caméo un peu chelou.
Faut qu'on en parle.
Voilà, un peu chelou.
Qui
vient cachetonner. Il a dû faire. Je comprends qu'il avait fait un jour et demi de tournage. Il a l'air ivre en permanence.
C'est produit par les Adidas, donc du coup, ils ont coup de téléphone. Il était là
à
Paris.
Je pense qu'il est ivre en permanence. Voilà.
Mais juste pour voir ce moment un peu de gêne, je mettrais 1,50€. Voilà, c'est tout.
Pour le moment. Et toi, Amandine?
Je pense que je mets 50 centimes, mais c'est juste parce que j'ai l'impression d'avoir Kev Adams autour de moi qui me dit « Ah, t'as vu comme je suis beau, t'as vu comme je suis génial, t'as vu comme tout le monde m'aime, vas-y. »
Oui, c'est sûr à l'oreille.
Et donc, t'es là, ouais, ok, j'ai pitié, vas-y, je te donne une pièce, c'est fini.
Je veux pas être encourageant parce que c'est vraiment, j'ai pas rigolé, je donne 1€ symbolique. C'est pas bon. Et le problème, c'est que à force d'avoir des comédies romantiques aussi bas de gamme, quoi, du coup, ça nivelle par le bas tout le genre qui mériterait d'être boosté, quoi, parce que on le redit à MDR, on adore les comédies romantiques et quand ça nous permet d'apprécier celles qui sont bien, d'en avoir des comme ça, quoi. C'est l'heure des recos. Vous pensez vous y échapper? Amandine, tu vas commencer.
Moi, je voulais parler d'un autre film qui parle de l'addiction sexuelle, mais dans un tout autre registre.
Oh là.
C'est Shame. Ça n'a donc rien à voir.
Je l'ai senti arriver. Toutes les lettres ont défilé dans mon cerveau. Maintenant, je vois le pénis de Fassbender dans ma tête.
Ça, tu vois, je mets plus que 50 centimes pour le coup.
Je peux bien le croire.
Donc Shame raconte la vie d'un personnage qui est totalement victime de ses pulsions sexuelles et qui le vit très mal. C'est un film très très froid.
C'est pas drôle du tout.
C'est pas drôle du tout. Fassbender est excellent, vraiment. Et c'est très déroutant, mais il y a quelque chose d'assez troublant dans ce film, et je trouve qu'il mérite d'être étudié, d'être vu. Et
voilà. C'est un film très intéressant. Mm. Et Vincent, toi, je vois que tu es en train de commander sur Amazon Shame pour en guise de documentation.
Bah, tu m'as parlé de pénis de Fassbender, donc forcément, j'y vais. Non, moi, simplement, j'ai repensé un peu à la filmo de Kev Adams, et je me dis, est-ce qu'il y a un film qui ne m'a pas dérangé, qui m'a fait un peu rire quand même? Et j'ai repensé simplement à Fiston, en fait, avec Franck Dubosc, où en gros, ça pourrait être un peu le préquel de Love Addict, où à partir du moment son but dans le film, c'est d'avoir une copine, donc de coucher avec quelqu'un.
C'est vrai que c'est un peu le même personnage.
Il demande l'aide à Franck Dubosc. Non, mais c'est pour ça, tu vois, tu peux faire une chronologie, tu sais, genre MCU, mais avec Kev Adams, tout est connecté, il va y avoir les Avengers.
Un KCU.
Et il serait une spouse. C'est
ça. Un Kev Cinematic Universe.
Mais voilà, et en gros, c'est un jeune ado qui va être aidé par Franck Dubosc en col roulé, qui fait du Dubosc quoi comme on aime, et il y a vraiment des bons moments, voilà, c'est Dubosc, donc forcément on aime ça, et voilà, c'est le seul film de Kev Adams où il ne me dérangeait pas, où j'avais l'impression qu'il était à peu près juste, voilà.
Je rajoute à ton Kev Adams votation les nouvelles aventures d'Alan, hein. Il était assez correct, en fait. Il jouait pas mal, et il y a une scène mémorable où.
Oui, avec une flûte.
La flûte dans le cul. Où il est vraiment très très bien. Moi, je voulais plutôt parler de la carrière de Mélanie Bernier, qui est vraiment une bonne actrice, qui joue parfois des trucs vraiment très audacieux. Et là, visiblement, ça a loupé. Elle a joué dans une bonne rom-com. C'est un peu beaucoup aveuglément. Un film de Clovis Cornillac. C'était son premier film. C'était une rom-com. Et c'est un couple qui tombe amoureux. Ils vivent d'un appart à l'autre, mais ils se voient pas et ils arrêtent pas de se draguer. Et c'est vraiment très bien. C'est fait avec beaucoup de légèreté. Et je pensais que ça allait être un des meilleurs films de Clovis Cornillac. Mais depuis, j'ai vu Belle et Sébastien 3. et Belle et Sébastien 3, il y a Clovis Cornillac qui joue le méchant. Il joue littéralement le rôle de Checky Cario, alors que Checky Cario joue le gentil. Et toutes mes références cinématographiques ont été complètement
explosées,
tourneboulées par ce film, avec plein de chiens mignons et tout. Donc ça fait deux recommandations en une. Voilà, Belle Sébastien 3 et un peu beaucoup aveuglément. Merci au lover Quentin pour la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur Apple Podcast. Excusez-moi les vieilles habitudes. Tu veux que je le refasse?
Ouais.
Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord.
Okay. Il va te demander d'enlever le lover.
Merci au serial lover Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, ainsi que sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec une autre comédie qui va être bien, j'en suis certain. On vous embrasse très fort, à bientôt.
Next épisode, votre émission 100% série.
J'ai vu le jour sur Terre.
Je veux changer le pays, Daniel. Le transformer vraiment.
Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre.
Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi.
Quitte à parler législative, je vais me faire élire. Pas forcément retourner à l'Assemblée.
Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.